C'est pas de salut qu'on va brièvement. Je ne fais pas trop de pages, vous verrez. Ce ne sera pas trop long. Faire un rappel, disons, de ce qui est la doctrine de l'Église. Vous vous souvenez encore de la réunion de prière d'Assises. Or, avant cette réunion de prière, la revue italienne Jésus, en français, consacra un numéro spécial à cet événement. Et dans cette revue, l'éditorial qui est tenu par le père dominicain Dominique Chenu, qui doit avoir à peu près 90 ans, dans cet éditorial, ce père écrivait, je cite, « Quand le pape rendit public son projet, l'assentiment joyeux des fidèles ne fut pas exempt d'une certaine surprise, puisqu'ils, c'est-à-dire les fidèles, portaient encore en eux le poids d'un enseignement séculaire, sur la base duquel le christianisme monopolisait toutes les valeurs religieuses. Pourtant, cette décision surprenante s'inscrit dans une ligne de parfaite homogénéité avec le changement global accompli par l'Église à Vatican II. » C'est le père qui écrit, ce n'est pas moi qui commente. « Une telle ligne de conduite impose de reconnaître dans les autres religions les éléments de vérité qu'elles comportent et qui concourent à la perfection de l'homme. » Ainsi est expressément réfutée la formule « hors de l'Église, pas de salut ». Et dans ce même numéro, Mgr Pietro Rossano, qui est recteur de l'Université pontificale du Latran, écrivait, je cite, « Le Concile avait ouvert de nouvelles perspectives ecclésiologiques, mais la théologie d'Emmanuel, expression dans son peu péjorative, mais la théologie d'Emmanuel était encore ferme sur les thèses relatives à la possibilité de salut des infidèles et sur le traité de la vraie religion. » Le traité de la vraie religion, c'est un traité De vera religione qui est, que vous trouvez sous Père Garrigou Lagrange, etc. C'est un traité de théologie dogmatique sur la religion. En outre, dit Mgr Pietro Rossano, se répandaient dans l'Église des affirmations ambiguës, affirmation qui troublait beaucoup la conscience et la résistance de ceux qui, accoutumés au langage préconciliaire, voyaient dans la nouvelle approche des non-chrétiens une offense à la foi. » Fin de citation. Et au cours de la conférence de presse qui précéda le lancement de ce numéro spécial de cette revue Jésus, Jesus, conférence à laquelle participait notamment John Foley, qui est lui président de la Commission pontificale pour les communications sociales, le même Mgr Rossano s'est exprimé comme suit, si l'on en croit du moins le journal Il Popolo. Citation du journal, Mgr Rossano a expliqué que depuis toujours coexistaient dans l'Église deux familles spirituelles, à savoir celle de la croisade et celle de la convivialité, pourrait-on traduire le terme convivens. À cette dernière, donc la famille spirituelle, la convivialité, appartiennent saint Augustin, saint Bernard, saint Thomas More et Pie XII qui, dans un document du Saint-Office, fit condamner qui affirmait que, hors de l'Évangile, il n'y avait pas de salut. Fin de citation. Celui qui n'a pas les moyens de vérifier, et la vérification n'est pas si aisée parce que l'édition complète des discours et messages de Pie XII, qui a été établi par l'imprimerie Saint-Augustin à Saint-Maurice, ne contient pas cette lettre du Saint-Office. Donc celui qui n'a pas les moyens de vérifier croira sur parole le recteur magnifique de l'université pontificale. Mais il faudra voir de plus près, car malheureusement nous sommes en un temps où l'on ne peut plus s'en remettre sans autre, simplement et avec confiance, à qui on devrait pourtant, si les choses étaient normales, pouvoir le faire. Alors en attendant, citons d'abord quelques textes qui attestent de la foi constante de l'Église en ce domaine. Alors je commencerai par saint Augustin, je fais un choix, ce n'est pas un choix exhaustif. Saint Augustin déclare, je cite, « Seule l'Église catholique est le corps du Christ. En dehors de ce corps, l'Esprit Saint ne vivifie personne. C'est pourquoi ils n'ont pas l'Esprit Saint ceux qui sont en dehors de l'Église. » On trouve la profession de foi prescrite aux Vaudois, cette secte qui est connue quelquefois sous le nom d'Albigeois aussi. Par Innocent III, en 1208, je vous cite un passage de cette profession de foi qui leur était imposée. « Nous croyons de cœur et professons de bouche une seule Église, non celle des hérétiques, mais la Sainte Église romaine, catholique et apostolique, hors de laquelle nous croyons que personne ne peut être sauvé. » 1208. 1215, le quatrième concile de Latran. Il y a une seule Église universelle des fidèles, hors de laquelle absolument personne n'est sauvé, et dans laquelle Jésus-Christ lui-même est à la fois le prêtre et la victime. 1302, c'est la bulle Unam Sanctam de Boniface VII. La foi nous oblige instamment à croire et à tenir une Église sainte, catholique et apostolique. Nous y croyons fermement, nous le confessons simplement. Hors d'elle, il n'y a pas de salut ni de rémission des péchés, puisque l'époux proclame dans le cantique « Unique est ma colombe, unique ma parfaite, l'unique de sa mère, préférée de celle qui l'enfanta. » Elle représente cette tirée du cantique des cantiques, chapitre 6, verset 9. Et la déclaration continue, la bulle continue, elle représente l'unique corps mystique dont le Christ a la tête. En effet, il y a un Seigneur, une foi, un baptême. Unique fut en effet l'arche de Noé au temps du déluge. Elle figurait par avance l'unique Église. Achevée à une coudée, référence à la Genèse, elle, l'Église, eut un unique pilote, c'est-à-dire l'arche, ici, qui est l'image de l'Église, elle eut un unique pilote et un unique chef, Noé. Hors d'elle, nous l'avons lu, tout ce qui existait sur la terre fut détruit. Bullunam Sanctam, donc de Boniface 7302. Le Concile de Florence, 1442, dans le décret pour les Jacobites, déclare ceci. La Sainte Église romaine croit fermement, professe et prêche qu'aucun de ceux qui vivent en dehors de l'Église, non seulement les païens, mais aussi les juifs ou les hérétiques et les schismatiques, ne peut avoir part à la vie éternelle, mais qu'ils iront au feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Sauf si, avant la fin de leur vie, ils sont réunis à l'Église. Que l'unité du corps de l'Église est si importante, que les sacrements de l'Église servent au salut de ceux-là seuls qui demeurent en elle, que les jeûnes, les aumônes, les autres œuvres de piété et exercices de la milice chrétienne produisent pour eux seuls des récompenses éternelles. Personne, si grande soit ces aumônes, eût-il versé son sang pour le nom du Christ, ne peut être sauvé s'il ne demeure dans le sein et dans l'unité de l'Église catholique. Donc décret du Concile de Florence de 1442. Sautons plus loin, c'est la locution Singulari Quadam de Pinoff, 1854, contre l'indifférentisme. Il faut donc tenir de foi que peut-être que personne ne peut être sauvé en dehors de l'Église romaine apostolique, qu'elle est l'unique arche du salut. Du même Pinoff, dans le syllabus, les erreurs condamnées sous les chiffres 15 et 18 sont les suivants. Chiffre 15, proposition condamnée, à savoir que tout homme est libre d'embrasser et de professer la religion, que la lumière de la raison l'aura amené à juger être la vraie religion. Proposition 16, également condamnée, les hommes peuvent trouver la voie du salut et obtenir le salut éternel dans le culte de n'importe quelle religion. Proposition 17, également condamné, on peut au moins bien espérer du salut éternel de tous ceux qui ne sont en aucune façon de la véritable Église du Christ. Et proposition 18, le protestantisme n'est qu'une des diverses formes de la même et vraie religion chrétienne dans laquelle il est possible de plaire à Dieu, tout comme dans l'Église catholique. Ensuite, 1854, 1870, le Concile Vatican I. Ce concile a été interrompu par les événements de 1870, la guerre, et il ne put adopter définitivement que la partie de la Constitution sur l'Église du Christ qui traitait de la primauté du pontife romain et de son infaillibilité. Mais dans le projet complet qui fut discuté, mais qui ne put être adopté faute de temps, nous trouvons ceci, et ce projet, même s'il n'est pas Donc s'il n'a pas été adopté par l'Église, n'en a pas moins une grande valeur doctrinale. On peut lire ceci donc. De plus, c'est un dogme de foi que hors de l'Église, personne ne peut être sauvé. Personne n'obtient cette vie, la vie éternelle, s'il meurt coupable de s'être séparé de l'unité et de la communion de l'Église, qui ne se trouve pas dans cette arche, périra au temps du déluge. Toujours la comparaison avec l'arche de Noé. 1870. 1896. Dans l'encyclique Satis Cogitum de Léon XIII du 29 juin 1896, la religion qui, par la volonté de Dieu, a en quelque sorte pris corps en elle, c'est l'Église seule qui l'offre au genre humain dans toute sa plénitude et sa perfection. Et de même, tous les moyens de salut qui, dans le plan ordinaire de la Providence, sont nécessaires aux hommes, c'est elle seule qui les leur procure. On saute encore jusqu'à Mystici Corporis Christi, l'encyclique de Pie XII de 1943. Seuls, en fait, font partie des membres de l'Église ceux qui ont reçu le baptême de régénération et professent la vraie foi, et qui, d'autre part, ne sont pas, pour leur malheur, séparés de l'ensemble du corps ou n'en ont pas été retranchés pour des fautes très graves par l'autorité légitime. Tous, en effet, dit l'apôtre, nous avons été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit homme libre. Par conséquent, comme dans l'assemblée véritable des fidèles, il n'y a qu'un seul corps, un seul esprit, un seul Seigneur et un seul baptême, ainsi ne peut-il y avoir qu'une seule foi. Et celui qui refuse d'écouter l'Église doit être considéré d'après l'ordre du Seigneur comme un païen et un publicain. Et ceux qui sont divisés pour des raisons de foi ou de gouvernement ne peuvent vivre dans ce même corps, ni par conséquent de ce même esprit divin. Comme on le voit par ces quelques citations, les citations que je vous ai faites ne sont pas exhaustives, on les trouve tout au long de l'Église, dans les documents pontificaux, dans les documents des conciles, dans les pères de l'Église, dans les auteurs reconnus, confirmés. Donc, comme on le voit par ces quelques citations, c'est un dogme de foi divine et catholique que extra ecclesia nulla salus, hors de l'Église, pas de salut. Ce dogme de foi est présent sous tous les textes du Nouveau Testament. Et voici ce qu'en dit le cardinal Journet dans son livre « Théologie de l'Église » en page 355. « Le message évangélique est adressé à tous les hommes juifs et gentils. Il est destiné aux nations de tous les temps. » Il se réfère chaque fois à des textes du Nouveau Testament. Donc le message évangélique est adressé à tous les hommes juifs et gentils, c'est la première aux Corinthiens et l'épître aux Éphésiens. Il est destiné aux nations de tous les temps, c'est Matthieu, chapitre 28, 19, 20. Il est une grande lumière pour tous ceux qui sont assis à l'ombre de la mort, c'est Matthieu encore, chapitre 4, verset 16. Ceux qui le reçoivent sont un avec le Christ, c'est Saint Jean. Ils sont les sarments de la vigne, toujours Saint Jean, les membres du corps du Christ, première aux Corinthiens. Ils lui deviennent conformes, épître aux Romains, en eux vit le Christ, épître aux Galates. Ils font ainsi son Église, Matthieu, dont il est la tête et qui est son corps, Éphésiens, où l'on entre par le baptême, Matthieu et Éphésiens. Ils sont dans le salut, épître à Timothée. C'est donc quelques références qu'il fait quand il dit que ce dogme de foi est présent sous tous les textes du Nouveau Testament. Et il résume, le cardinal Journet, en disant « Recevoir le message, faire un avec le Christ, composer son Église, être dans le salut, ces expressions sont synonymes. Le salut est l'incorporation au Christ et à son Église. » Et le cardinal continue « Pareillement, refuser le message, être hors du Christ, hors de l'Église, hors du salut, sont des expressions synonymes. » Et il cite saint Matthieu « Si l'on refuse de vous accueillir et d'écouter vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville en secouant la poussière de vos pieds. En vérité, je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorre aura un sort moins rigoureux que cette ville. » Et tiré de saint Jean, « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, on le jette dehors comme le sarment et il se dessèche, puis on les ramasse et on les jette au feu et ils brûlent. » Tiré de saint Matthieu, « S'il refuse d'écouter même l'Église, qu'il soit pour toi comme le païen et le publicain. » et tiré encore de saint Jean, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, nul ne peut entrer au royaume de Dieu. Hors de l'incorporation au Christ et à son Église, dit le cardinal, pas de salut. Il est dit expressément aux actes des apôtres que hors du Christ, il n'y a pas de salut. Ce Jésus, c'est tiré des actes au chapitre 4, ce Jésus est la pierre que vous, les bâtisseurs, avez dédaignée et qui est devenue la pierre d'angle, car il n'y a pas sous le ciel d'autre nom donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Et le cardinal termine, il est dit expressément dans saint Paul que l'Église est le corps du Christ, car Dieu, c'est tiré des l'Épître aux Éphésiens, Dieu l'a constitué au sommet de tout, tête pour l'Église, laquelle est son corps, la plénitude de celui qui est rempli tout en tout. Il s'ensuit donc nécessairement, conclut le cardinal, que hors de l'Église, il n'y a pas de salut. Tel est le dogme bien établi, le dogme, vérité de foi divine et catholique, le dogme bien établi, constamment enseigné par l'Église comme une vérité révélée, pas une invention d'Église, mais une vérité révélée. On mesure dès lors, déjà, l'impossibilité, puisqu'il s'agit d'une vérité révélée, d'une vérité de foi divine et catholique, on mesure, dis-je, l'impossibilité que Pie XII ait pu, comme l'affirmait le recteur de l'Université pontificale du Latran, dans un document du Saint-Office, disait-il, faire condamner qui affirmait que hors de l'Église, il n'y avait pas de salut. Examinons donc de plus près ce qu'il en est de ce document. Cette lettre, parce que ce document est une lettre du Saint-Office, adressée à l'archevêque de Boston le 8 août 1949, mais qui n'a été rendue publique que le 4 septembre 1952. Elle intervient, cette lettre, dans une controverse qui était née entre l'archevêque de Boston, Mgr Cushing, et un groupe d'enseignants appartenant à deux instituts, le St. Benedict Center et le Boston College. Et cette controverse était née du fait que les enseignants cités de ces deux instituts soutenaient que seuls pouvaient se sauver ceux qui appartenaient réellement, c'est-à-dire de fait, explicitement, visiblement, à l'Église. Ils enseignaient, autrement dit, que ceux qui, en cas même d'impossibilité ou même d'ignorance invincible, n'appartenaient donc pas visiblement à l'Église, cela se donnait. Et c'est pour dirimer cette controverse que cette lettre du Saint-Office de 1949 a été écrite à la demande de Pie XII. Alors, que déclare cette lettre ? Elle commence précisément par rappeler le dogme. Alors, je vous en donne la traduction. Nous sommes tenus de croire. On le trouve d'ailleurs, cette traduction, dans le bouquin, je ne sais pas, La foi catholique, je ne sais pas si vous voyez. Vous avez donc vous avez le Danziger, qui lui contient les textes en latin. Il n'y a pas la traduction latine. Et puis vous avez La foi catholique, c'est un livre de Dumège, qui vous donne tous les documents. La plupart de ces documents sont d'ailleurs tirés de Dumège. Ce n'est pas le seul le bouquin, mais c'est un bon bouquin de référence. Alors ça, je tire de Dumège. Et voilà ce que dit donc cette lettre du Saint-Office. Nous sommes tenus de croire, de foi divine et catholique, toutes les vérités contenues dans la parole de Dieu, écriture et tradition, vérités que l'Église propose à notre foi comme divinement révélées, non seulement par un jugement solennel, donc l'Église ne l'a pas seulement établi par un jugement solennel, mais aussi par son magistère ordinaire et universel. Or, continue la lettre, parmi les choses que l'Église a toujours prêchées, et qu'elle ne cessera jamais d'enseigner, se trouve cette déclaration infaillible qui dit qu'il n'y a pas de salut hors de l'Église. Il faut dès lors avoir un sacré souffle, si vous me permettez l'expression, de la part du recteur magnifique de l'Université de Latran, université pontificale, pour venir dire, confier à un journal que Pie XII, dans un document dont on ne peut pas facilement vérifier le contenu, a blâmé, sinon condamné, qui prétendait que toujours, qui prétendrait toujours que hors de l'Église, il n'y avait pas de salut. Voilà ce que dit le début de la lettre. Or, parmi les choses que l'Église a toujours prêchées et qu'elle ne cessera jamais d'enseigner, se trouve cette déclaration infaillible, donc qui n'est pas à reprendre, qui est irrévocable, qui dit qu'il n'y a pas de salut hors de l'Église. Voilà le rappel. Et alors, suivent maintenant les précisions. Toutefois, dit cette lettre, ce dogme doit être compris dans le sens que lui donne l'Église elle-même. C'est évident. Le Sauveur, en effet, a confié l'explication des choses contenues dans le dépôt de la foi, non pas au jugement privé de chacun, mais au magistère de l'autorité ecclésiastique. Et alors, quel est le sens que donne l'Église à cet axiome « Hors de l'Église, pas de salut » ? La lettre déclare, en premier lieu, l'Église enseigne qu'il s'agit en cette question d'un commandement très strict de Jésus-Christ. Il a en effet imposé expressément à ses apôtres d'apprendre à toutes les nations à observer tout ce qu'il avait ordonné. Allez, enseignez toutes les nations, baptisez-les, etc. Parmi les commandements du Christ, continue la lettre, celui-là n'est pas le moindre qui nous ordonne d'être incorporés par le baptême dans le corps mystique du Christ, qui est l'Église, et de rester unis au Christ et à son vicaire, par lequel il gouverne lui-même de façon visible son Église sur terre. Car c'est pourquoi nul ne sera sauvé si, sachant que l'Église a été divinement instituée par le Christ, il n'accepte pas cependant de se soumettre à l'Église ou refuse l'obéissance au pontife romain vicaire du Christ sur terre. Non seulement notre Sauveur a commandé que tous les peuples entrent dans l'Église, mais il a décrété aussi que l'Église serait le moyen de salut sans lequel personne ne peut entrer dans le royaume de la gloire éternelle. Donc le dogme rappelé avec toute la netteté voulue, viennent ensuite les précisions. On regarde cette controverse que j'ai dite. La lettre dit, « Dieu, dans son infinie miséricorde, a voulu que les effets nécessaires pour être sauvés de ces moyens de salut qui sont ordonnés à la fin dernière de l'homme, non pas par nécessité intrinsèque, mais uniquement par l'institution divine, puissent aussi être obtenus en certaines circonstances, lorsque ces moyens ne sont mis en œuvre que par le désir ou par le souhait. Nous voyons ceci clairement énoncé dans le Saint Concile de Trente, dit la lettre, au sujet soit du sacrement de régénération, donc le baptême, soit du sacrement de pénitence. Et alors la lettre continue, il faut en dire autant qu'il en ait été dit du sacrement de pénitence et du sacrement de baptême, il faut en dire autant à son propre degré de l'Église en tant qu'elle est le moyen général de salut. Car pour que quelqu'un obtienne le salut éternel, il n'est pas toujours requis qu'il soit en fait incorporé à l'Église comme membre, mais il est au moins requis qu'il lui soit uni par le désir ou le souhait. Cependant, continue la lettre, il n'est pas toujours nécessaire que ce vœu soit explicite, c'est-à-dire formulé consciemment, comme il l'est chez les catéchumènes. Les catéchumènes qui veulent entrer dans l'Église ont ce désir explicite, formel, d'entrer dans l'Église, mais ils ne le feront qu'au terme d'une éducation, d'une instruction suffisante. Cependant, il n'est pas toujours nécessaire que ce vœu soit explicite comme il l'est chez les catéchumènes, mais quand l'homme est victime d'une ignorance invincible, Dieu accepte aussi un désir implicite, non formulé. Et pourquoi dit-il implicite ? Ainsi appelé, parce qu'il est inclus dans la bonne disposition d'âme par laquelle l'homme veut conformer sa volonté à la volonté de Dieu. Autrement dit, quelqu'un qui est dans une ignorance invincible ne peut pas formuler un désir explicite de rentrer dans l'Église, mais parce qu'il a une disposition d'âme par laquelle il veut conformer sa volonté à la volonté de Dieu, dans cette disposition d'âme est contenu le désir implicite d'entrer dans l'Église, c'est-à-dire que s'il savait que l'Église a été fondée par Jésus-Christ, qu'elle est le seul moyen de salut, voulant faire la volonté de Dieu, il entrerait dans l'Église. C'est donc son désir implicite. Je relis le paragraphe. Cependant, il n'est pas toujours nécessaire que ce vœu soit explicite comme il l'est chez les catéchumènes, mais quand l'homme est victime d'une ignorance invincible, Dieu accepte aussi un désir implicite, ainsi appelé, parce qu'il est inclus dans la bonne disposition d'âme par laquelle l'homme veut conformer sa volonté à la volonté de Dieu. Et plus loin, la lettre dit « Ces vérités sont clairement exprimées dans l'encyclique dogmatique publiée par le souverain pontife Pie XII le 29 juin 43 sur le corps mystique du Christ. Dans cette encyclique, le souverain pontife distingue clairement ceux qui sont actuellement incorporés à l'Église comme membres de ceux qui lui sont unis seulement par le désir. Parlant des membres qui forment ici-bas le corps mystique, le même pontife déclare « Seuls font partie des membres de l'Église, ceux qui ont reçu le baptême de régénération, et qui, professant la vraie foi, ne se sont pas séparés eux-mêmes pour leur malheur de ce corps, ou n'en ont pas été retranchés pour des fautes très graves par l'autorité légitime. » C'est le texte que je vous ai lu avant. Et la lettre continue, vers la fin de la même encyclique, « invitant à l'union, avec une grande affection, ceux qui ne font pas encore partie du corps de l'Église catholique, le souverain pontife cite ceux qui, par un certain désir et souhait inconscient, se trouvent ordonnés au corps mystique du Rédempteur. Il, le pontife, ne les exclut d'aucune façon, dit la lettre du salut éternel, mais affirme qu'il, ces personnes, se trouvent dans une condition dans laquelle nul ne peut être sûr de son salut éternel, puisque privé de tant et de si grands secours et faveurs célestes dont on ne peut jouir que dans l'Église catholique. » Par ces paroles, le pape condamne à la fois ceux qui excluent du salut éternel tous les hommes qui ne sont unis à l'Église que par un désir implicite, et ceux qui affirment faussement que tous les hommes peuvent également, de la même façon, bien, et peuvent également bien être sauvé dans toute religion. Et la lettre termine en disant « Il ne faut pas penser non plus que n'importe quelle sorte de désir d'entrer dans l'Église suffise pour être sauvé, car il est nécessaire que le désir qui ordonne quelqu'un à l'Église soit animé par la charité parfaite. » Quand on parle de charité parfaite, c'est l'état de grâce. Le désir implicite ne peut avoir d'effet que si l'homme a la foi surnaturelle, pas simplement une seule foi naturelle, c'est-à-dire l'affirmation de Dieu à laquelle on accède par la raison, mais véritablement la foi surnaturelle. Et il cite l'Épître aux Hébreux, « Celui qui vient à Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Et le Concile de Trente déclare, « La foi est le commencement du salut de l'homme, le fondement de la racine de toute justification, sans laquelle il est impossible de plaire à Dieu et de parvenir à partager le sort de ses enfants. » Sans la foi, il est impossible d'accéder à l'éternité bienheureuse. Voilà cette lettre dont parlait en termes si cavaliers le recteur magnifique de l'Université du Latran, et je crois que la lecture simple de cette lettre fait un sort à cette affirmation. On constate en effet que la lettre incriminée ne concerne pas la nécessité d'appartenir à l'Église pour se sauver, ce qui est hors de doute, est rappelé dans la lettre elle-même, on pourrait dire en préambule. Elle intervient pour rappeler la vérité en ce qui concerne ceux qui n'appartiennent que de désir à l'Église, parce que c'était le point de la controverse qu'il fallait trancher. Mais on le remarquera, sur ce point particulier, concernant ceux qui n'appartiennent que de désir à l'Église, le Saint-Office ne donne pas la doctrine particulière d'une famille spirituelle. Rappelez-vous, Mgr Rossano parlait de l'existence constante dans l'Église de deux familles spirituelles, ceux qui sont animés que par l'esprit de croisade et ceux qui ont un esprit au contraire de convivialité. Donc ce que le pontife Pie XII par le Saint-Office déclare à ce moment-là n'est pas la doctrine d'une famille spirituelle. Cette lettre répète une doctrine catholique qui remonte en tous les cas explicitement à saint Ambroise, à saint Augustin, à saint Thomas, qui est une doctrine confirmée par Innocent II, par Innocent III, doctrine solennellement sanctionnée pour le baptême, la pénitence et les sacrements en général par le Concile de Trente, ainsi que le rappelle la lettre elle-même, et doctrine réaffirmée solennellement également par Pie IX dans l'encyclique Singulari Quadam contre l'indifférentisme que je vous ai cité. Et pour vous donner quand même des preuves, je vous cite le texte de saint Ambroise. Il s'agit donc du discours que saint Ambroise a prononcé à la mort de l'empereur Valentinien II, qui a été assassiné en 392 avant d'avoir pu recevoir le baptême. Et voici ce que dit saint Ambroise. « Pour moi, j'ai perdu celui que j'allais engendrer à l'Évangile. Mais lui n'a pas perdu la grâce qu'il a demandée. Qu'avons-nous en notre pouvoir sinon la volonté et le désir ? Or, naguère encore, c'est-à-dire il y a peu, il a manifesté ce propos de se faire initier avant d'entrer en Italie et déclaré son dessein de se faire aussitôt baptiser par moi. Il n'aurait donc pas la grâce qu'il a désirée, qu'il a demandée ? Certes, s'il l'a demandée, il l'a reçue. Et c'est pourquoi il est écrit, « Quelle que soit la mort du juste, son âme sera dans le repos. » Vous avez l'affirmation très nette que quiconque a le désir ici, c'est un désir explicite, formulé, donc, d'entrer dans l'Église, mais c'est ce qu'on appelle le baptême de désir. Et voici ce que disait Pinoff dans la locution citée « Singulari quadam », je vous en ai cité qu'une partie, je vous cite maintenant le paragraphe tout entier. « Il faut donc tenir de foi que personne ne peut être sauvé en dehors de l'Église romaine apostolique, qu'elle est l'unique arche du salut. Celui qui n'y est pas entré périra par le déluge. » Je m'étais arrêté là, voici la suite. « Mais cependant, il faut tenir également pour certain que ceux qui souffrent de l'ignorance de la vraie religion, ignorance invincible, n'en sont nullement rendus coupables aux yeux du Seigneur. » Et j'avais fait de même avec le texte du Concile Vatican I. Alors voici le texte complet. « C'est un dogme de foi que hors de l'Église, personne ne peut être sauvé. Ceux qui sont victimes d'une ignorance invincible sur le Christ ne sont pas de ce chef voués aux peines éternelles de la damnation. Ils ne se sont pas rendus coupables de cette faute aux yeux du Seigneur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ce Seigneur qui ne refuse pas à celui qui fait ce qui est en son pouvoir, la grâce permettant d'obtenir la justification et la vie éternelle. Mais personne n'obtient cette grâce, cette vie, s'il meurt coupable de s'être séparé de l'unité et de la communion de l'Église, qui ne se trouve pas dans cette arche, périra au temps du déluge. » Fin de citation. Cette doctrine catholique affirme donc que, en cas d'ignorance invincible ou en cas d'impossibilité, il suffit pour être sauvé de l'appartenance de désir à l'Église, désir qui, selon les circonstances, peut être explicite ou seulement implicite, c'est-à-dire, selon la formule que je vous ai dite plus haut, contenue dans la disposition morale d'accomplir en tout la volonté de Dieu. Mais dans son encyclique, Mystici Corporis Christi, Pie XII précisait encore, pour ceux-là même qui n'appartiennent pas à l'organisme visible de l'Église, nous, c'est le pluriel de majesté, nous les avons confiés à la protection et à la conduite du Seigneur, les invitant tous et chacun à s'efforcer de sortir d'un état où nul ne peut être assuré de son salut éternel, car même si par un certain désir et souhait inconscient, ils se trouvent ordonnés au corps mystique du Rédempteur, ils sont privés de temps et de si grands secours et faveurs célestes dont on ne peut jouir que dans l'Église catholique. Encore une précision au sujet de ce dogme. Cette vérité de foi ne signifie évidemment pas que toute appartenance corporelle visible au Christ et à son Église est salutaire, je dirais ipso facto. Au contraire, les chrétiens pécheurs, s'ils ne se convertissent pas à temps, seront damnés. Pécheurs, donc en état de péché mortel, de quoi en effet servirait au chrétien sa foi s'il n'a pas la charité, c'est-à-dire l'état de grâce en lui. L'Église qui est l'épouse du Christ et le corps du Christ est, en effet, nous le savons, comme le dit saint Paul aux Éphésiens, glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et immaculée. Mais étant glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, étant sainte et immaculée, elle contient cependant des pêcheurs. Elle est pareille au filet qui ramène des poissons de toute espèce, dont les bons seront gardés et les mauvais rejetés. Elle est pareille encore au champ de blé où l'ivraie croît avec le froment. Comment les pêcheurs peuvent-ils être membres de l'Église ? Parce qu'ils sont baptisés. et que, même ayant perdu la grâce sanctifiante, c'est-à-dire la charité, subsiste en eux la foi et l'espérance. Un péché mortel ne fait pas perdre la foi et l'espérance, il vous fait perdre la charité, ce qui suffit d'ailleurs pour être damné, mais vous conservez la foi et l'espérance. C'est évident que si ensuite on laisse les choses aller, on arrive à des fois et à des espérances réduites au plus simple, résidus et quelquefois mortes, en tous les cas mortes de toute manière, puisqu'il n'y a pas la charité. Mais ce sont des amorces possibles, cette foi et cette espérance qui subsistent, pour retrouver précisément la grâce par le sacrement notamment de pénitence. Donc, parce qu'ils sont baptisés et que même ayant perdu la grâce sanctifiante, subsiste en eux la foi et l'espérance, ils sont membres de l'Église, mais d'une manière partielle. Et le cardinal Journet dit, dans l'opus cité en page 359 et 360, ils sont membres par ceux qui subsistent en eux de dons divins. Par leur péché qui représente leur choix le plus secret, ils sont hors de l'Église et relèvent du prince de ce monde. Il y a des pécheurs dans l'Église, mais ils n'y introduisent pas le péché. Les frontières de l'Église divisent leur cœur. On pourra résumer en disant qu'ils appartiennent à l'Église visiblement, corporellement, par une partie de leur cœur, mais non pas invisiblement, spirituellement, par le principal de leur cœur. Le cardinal Journet, parlant d'ailleurs de cette appartenance latente de ceux qui ont le désir particulièrement implicite d'appartenir à l'Église, dit que, de toute manière, même pour cela, toutes les grâces de salut qui ont été méritées par la prière du Christ en croix, dérivent de lui seul et ne peuvent dériver que de lui, puisqu'aucun autre nom n'a été donné aux hommes par lequel ils puissent être sauvés. Mais cette dérivation de grâce, précise le cardinal, peut se faire de deux manières, par contact ou à distance, à la manière dont Jésus guérissait les corps, tantôt par contact et tantôt par distance. La dérivation par contact se fait aujourd'hui par l'Église. C'est là le régime normal et définitif du salut pour le monde entier. Il est destiné à être porté à tous les hommes de tous les temps. Mais Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et là où la dérivation de grâce par contact est entravée, le Christ, qui ne connaît pas d'obstacle, continue d'atteindre chaque homme dans le secret, le contraignant à répondre par oui ou par non à la prévenance divine. Et parlant du mystère de cette vérité de foi, le cardinal Journet commente ainsi. Il faut tenir, selon le Nouveau Testament, 1. Qu'il n'y a pas de salut sans appartenance au Christ et à son Église. 2. Que certains pécheurs, privés de la charité, donc de la grâce, appartiennent au Christ et à l'Église, mais d'une manière stérile, non salutaire. Ils sont pareils à ce figuier dont on attend chaque année les fruits, avant de finalement le couper. Et troisièmement, que certains justes, qui n'appartiennent pas encore corporellement au Christ et à l'Église, leur appartiennent à l'Église et au Christ. Pourtant, spirituellement, d'une manière tendancielle, tendre vers, déjà salutaire, ils sont pareils à ces brebis de bonne volonté, qui, entravées par quelqu'une des formes de l'ignorance invincible, sont en marche, sans toujours le savoir, vers le seul troupeau régi par le seul berger. La nécessité de l'appartenance au Christ et à son Église que nous révèle l'Écriture est un mystère unique et simple, conclut le cardinal, mais si profond que nous ne pouvons le saisir que par une suite de propositions complémentaires contraignant l'intelligence du croyant à passer au-delà jusque finalement à arriver au silence d'un regard de foi. Fin de citation. Tout ce que l'on peut dire, c'est que cette vérité de foi presse précisément l'Église d'être missionnaire, non seulement l'Église, mais chaque catholique. Il ne nous appartient pas d'entrer dans le secret des cœurs et de dire qui se trouve ou non dans un état d'ignorance invincible, c'est là le jugement de Dieu. Mais il nous appartient de ne pas mettre la lumière sous le boisseau, ni dans un mouvement de fausse charité, de cacher ou de diminuer cette vérité de foi, de laisser croire en conséquence que l'on peut se sauver par, je dis bien par, toutes les religions. Si je disais dans, ce serait autre chose, mais par toutes les religions. Et malheureusement, c'est ce que l'on doit constater aujourd'hui, pourtant, qu'il y a, je dirais, un mouvement de fausse charité. À la veille du Concile Vatican II, le pasteur protestant Oscar Kuhlmann écrivait dans son livre « Catholique et protestant, un projet de solidarité chrétienne » en page 39 « Notre foi dans l'Église ne nous empêche pas de reconnaître les autres Églises comme telles. Si nous autres prions pour l'unité telle que nous la concevons, nous devons prier afin que les catholiques cessent d'être exclusifs. » On dirait presque qu'ils ont été exaucés. Il sera d'ailleurs invité au Concile comme observateur, et on peut dire que son vœu a été largement accueilli par des hommes d'Église et non des moindres. Parce que l'on trouve dans le décret Unitatis Redintegratio, qui concerne l'œcuménisme, cette phrase, « Ces églises et communautés séparées, bien que nous les croyions victimes de déficiences, ne sont nullement dépourvues de signification et de valeur dans le mystère du salut. L'Esprit du Christ, en effet, ne refuse pas de se servir d'elles comme de moyen de salut, dont la force dérive de la plénitude de grâce et de vérité qui a été confiée à l'Église. » Il est vrai qu'un paragraphe plus loin, le texte dit « C'est en effet par la seule Église catholique du Christ, laquelle est moyen général de salut, que peut s'obtenir toute la plénitude des moyens de salut. » Et ce passage de ce décret, donc « Unitatis Redintegratio », le pape le reprend presque textuellement dans l'encyclique « Catechesi Tradendae » du 16 octobre 1979, où il déclare « Il est extrêmement important de faire une présentation correcte et loyale des autres églises dont l'Esprit du Christ ne refuse pas de se servir comme de moyen de salut. » Mais qu'est-ce à dire? De deux choses l'une. Ou bien l'Église est l'unique moyen de salut, la seule arche de salut. Il n'y en a pas d'autre, même moins efficace. C'est ce que nous avons vu par toutes les déclarations de l'Église que je vous ai cité, qui est une vérité de foi, ce n'est pas une trouvaille d'homme d'Église à un certain moment, c'est une vérité de foi divinement révélée. Ou bien l'Église n'est pas l'unique arche de salut. À lire le texte du décret et à lire certaines déclarations, il semble soudain, sans forcer l'interprétation, que l'on veuille dire que l'Église est le moyen général, qu'elle possède toute la plénitude des moyens de salut, mais que, quand même, les autres églises ou communautés ne sont pas sans signification et que l'Esprit du Christ ne refuse pas de se servir d'elles comme moyen de salut, pour reprendre littéralement la phrase qui est autrement dit, elles sont aussi des moyens de salut. Ou alors, il ne faut pas le dire. On ne peut pas dire que si le Christ ne refuse pas de se servir d'elles comme de moyens de salut, ça veut dire qu'elles sont aussi, à un niveau moindre, tout ce qu'on veut, des moyens de salut. Mais affirmer cela, même à un niveau en bas, si on peut dire, même avec toutes les restrictions que vous voulez, si vous affirmez que les autres communautés sont, d'une certaine manière, des moyens de salut, vous vous en prenez au dogme qui nous oblige à affirmer que tout homme qui se sauve ne se sauve que seulement par l'unique Église fondée par le Christ. Même s'il est protestant, s'il est bouddhiste, il ne se sauve pas par le protestantisme, par le bouddhisme, par l'islamisme, par le judaïsme, tout ce que vous voulez. Il meurt visiblement protestant, bouddhiste et tout, mais s'il est sauvé dans le protestantisme, dans le bouddhisme, dans l'islamisme, dans le judaïsme, ce n'est que par l'Église du Christ, dont le Christ, qui est le corps mystique du Christ et dont le Christ a la tête. Cette atténuation qui a été mise au dogme, on le voit par simplement la citation que je vous ai faite de Mgr Rossano, c'est quand même un monde qu'on puisse raconter ce qui a été raconté là, dans le journal Il Popolo, amène évidemment à une attitude pratique que nous voyons en œuvre aujourd'hui dans l'œcuménisme. Je ne fais qu'aborder la question parce que ça donnerait un sujet pour lui-même. Et c'est Romano Amerio qui le note longuement dans son livre « Iota Unum » où il relève, que la doctrine traditionnelle de l'œcuménisme est établie dans l'instruction sur le mouvement œcuménique, c'est « Instructio de Motione Œcuménica » promulguée par le Saint-Office le 20 décembre 49 et qui reprend l'enseignement de Pie XI dans l'encyclique « Mortalium Animos ». Cette instruction statue donc, 1. L'Église catholique possède la plénitude du Christ et n'a pas à la perfectionner par l'apport des autres confessions. 2. Il ne faut pas poursuivre l'union par la méthode d'une assimilation progressive des diverses professions de foi, ni au moyen d'une adaptation du dogme catholique à quelque autre. 3e point. L'unique vraie union des Églises ne peut se faire que par le retour, per reditum, des frères séparés à la vraie Église de Dieu. 4e point. Les frères séparés qui se réunissent à l'Église catholique ne perdent rien de substantiel de ce qui appartient à leur profession particulière, mais le retrouvent au contraire identique dans une dimension complète et parfaite. Il est bien clair, il est bien vrai que dans ces églises ou communautés religieuses, hautes catholiques, existent, dans des proportions d'ailleurs qui peuvent être très différentes, des vérités de foi qui appartiennent aussi à l'Église catholique. Si vous prenez l'Église orthodoxe, vous avez tous les sacrements, vous avez quasiment tous les dogmes, disons, qui sont professés par l'Église catholique. Ce que vous n'avez pas, c'est la primauté, le primat de Pierre, donc le pouvoir de juridiction suprême de Pierre. Si vous allez dans l'anglicanisme, vous trouvez moins, mais vous trouvez le dogme de la Trinité, notre Seigneur, etc. Si vous allez dans d'autres religions chrétiennes, vous trouverez encore moins, et quelquefois on arrive jusqu'à des dissidences qui en vont jusqu'à nier la divinité de Jésus-Christ. Mais ces vérités qui existent, il serait évidemment imbécile, je dirais, de les nier. Elles sont professées. Et c'est pourquoi le retour à l'Église catholique ne fait rien perdre de substantiel de ce qui appartient déjà aujourd'hui à leur profession particulière. Mais ils le retrouvent, cette fois-ci, dans le cadre de l'Église, dans une dimension complète et parfaite, alors que dans les communautés et églises aujourd'hui, elles sont quand même liées, quelquefois, à des hérésies ou à des défauts qui ont été d'ailleurs signalés en son temps. Donc ça, c'est l'instruction de 49. Eh bien, fait extrêmement significatif, c'était quand même pas vieux, 62-65, la période du Concile, c'était 13 ans auparavant. Cette instruction de 1949 n'est jamais citée dans le décret Unitatis Reintegratio. Et le mot de retour, qui est toujours le mot qui a été mentionné soit dans Pie XI, Mortalium Animos, soit dans cette instruction, n'y figure pas non plus. Pourtant, Paul VI, dans le discours inaugural de la deuxième session, avait à nouveau proposé la doctrine traditionnelle, celle de l'instruction que je viens de citer, et celle de Mortalium Animos, d'ailleurs celle de toujours de l'Église. Mais en dépit des déclarations du pape, le décret repousse le retour des séparés et professe la conversion de tous les chrétiens. Et alors l'unité des dorénavant ne doit pas se faire par le retour des séparés à l'Église catholique, mais par la conversion de toutes les églises, y compris l'Église catholique, au Christ total. Parce qu'aujourd'hui, en aucune d'elles n'existe le Christ total. Et le Christ total ne peut exister que par la convergence de toutes les églises en un seul tout. Et là où les schémas préparatoires définissaient que l'Église du Christ est l'Église catholique, le Concile concède seulement que l'Église du Christ subsiste dans l'Église catholique, adoptant ainsi la théorie selon laquelle même dans les autres églises chrétiennes subsiste l'Église du Christ, et que toutes doivent prendre conscience de cette commune subsistance dans le Christ. Ça peut vous paraître un peu abstrait, je vais vous lire quelques définitions, quelques déclarations qui vous éclaireront. Lors de la 89e congrégation du Concile, Mgr Weber, évêque alors de Strasbourg, invita à ce que, je cite, « l'on évita toute expression faisant allusion au retour des frères séparés ». Fin de citation. Cette invitation est devenue l'axiome doctrinal et la directive pratique du mouvement œcuménique tel qu'il s'est développé depuis lors. On abandonne le principe du retour des frères séparés au profit de celui de la conversion de tous les chrétiens au Christ total qui serait immanent à toutes les confessions. Et le président du conseil conciliaire hollandais catholique définissait ainsi la position de cette Église. Vous le trouvez dans les informations catholiques internationales numéro 281 du 1er février 67, en page 15, je cite « L'unité de l'Église ne signifie plus le retour à l'Église catholique telle qu'elle est aujourd'hui, mais une croissance de toutes les Églises vers ce que l'Église du Christ devrait être. » Il rejoignait parfaitement ce que le patriarche Athénagoras professait, que vous trouvez dans les informations catholiques internationales numéro 311 du 1er mai 68 en page 18, il n'est pas question dans ce mouvement œcuménique, dans ce mouvement d'union, de marche d'une église vers l'autre, mais de marche de toutes les églises vers le Christ commun. Là, c'était Athénagoras, le bienheureux 33e degré maçon. Oui, ça, on l'a su, je le cite entre guillemets, parce que ça a apparu dans une revue maçonnique de Grèce, où ils ont salué la mort du vénérable patriarche Athénagoras qui faisait partie du 33e, qui était un initié du 33e degré. Monseigneur Le Bourgeois, je ne prends pas des gens extérieurs, je prends, mis à part le patriarche Athénagoras, mais enfin, je prends Monseigneur Le Bourgeois, qui était évêque d'Autun. Lui, ce n'est pas très vieux, c'est dans les informations catholiques internationales numéro 585 du 15 avril 83. Déclare ceci qu'en tant qu'évêque catholique, aucune Église ne peut prétendre être à elle seule l'authentique Église de Jésus-Christ tant que l'unité n'est pas réalisée. Alors, vous avez autrement un Monseigneur Sartori, il n'est rien moins que professeur de dogme à la faculté de théologie de l'Italie septentrionale. Il déclare, on le trouve cette déclaration dans Vita et Pensiero de septembre-décembre 1977, le catholicisme a découvert sa partialité, le fait qu'il n'était qu'une partie, qui est une contraction au sein de l'universalité, et il a découvert le tout au sein duquel se trouve cette partialité chrétienne. Le père Spiazzi, on le trouve cette fois-ci ni plus ni moins que dans l'Osservatore Romano du 27 janvier 1982, dans une conférence à la Civiltà Cattolica, lui déclare « Aucune Église ne s'identifie parfaitement au Christ, d'où la nécessité pour chaque Église d'accepter ce mouvement centripète vers le Rédempteur. » Il y a le centrifuge, puis il y a le centripète, enfin, je pense que ça fait mieux en latin, en italien qu'en français. Eh bien, on pourrait multiplier indéfiniment les citations qui attestent la même orientation. Et cette avancée que l'on a fait aux églises, aux communautés chrétiennes, on l'a fait vers les religions non chrétiennes. Le christianisme n'est en fait aujourd'hui, par beaucoup, théologiens et membres de la hiérarchie, reconnu que comme l'une des innombrables formes historiques possibles sous lesquelles se réalise la religion naturelle universelle qui se trouverait au cœur de tout homme. Mais je vous dis, ce serait là sortir du sujet qui nous était proposé par le titre annoncé. Ce me semble-t-il qu'il faut retenir, c'est le dogme dans toute sa pureté, tel que l'a compris et explicité l'Église au cours des siècles, à savoir que l'Église catholique est la seule arche de salut et que quiconque se sauve, même s'il n'appartient pas visiblement à cette unique Église, se sauve néanmoins uniquement par cette Église. Voilà. Plus ou moins grande, ça c'est évident. Et que peut-être, on pourrait dire en tous les cas une chose, globalement, c'est évident aussi que je trouve que c'est un progrès remarquable, je dirais, et bienvenu, que l'on cesse, disons, entre membres de religions différentes de se... éventuellement de se livrer à des guerres ou de s'estourbir et qu'on ait, disons, une approche qui soit une approche charitable. Ça, c'est un bien. Mais de là à passer à dire maintenant l'Église n'est plus catholique, n'a plus le monopole de la vérité. La vérité est disséminée un peu partout, disons, dans les religions. Alors c'est dans la même mesure où les religions convergeront ensemble qu'elles se réuniront finalement dans une Église qui, elle, regroupera le Christ total. Ça veut dire que l'Église catholique, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas été le Christ total. Ça veut dire qu'elle n'était pas le corps mystique du Christ, un corps amputé des deux jambes, peut-être des deux bras, je ne sais pas trop quoi. Alors, si je dois dire objectivement que si c'est ça, alors cette même Église qui nous a enseigné pendant des siècles ça et qui nous enseignerait aujourd'hui autre chose, on la voit dinguer, puis c'est simple. Puis on s'occupe de planter des poros, bien autre chose. Oui, pardon. Oui, alors, c'est un sujet intéressant, celui de l'infaillibilité. Donc, il a été défini solennellement au Concile Vatican I. Alors, il y a, et le Concile, la bulle, disons, la constitution, disons, Dei Filius, précise les conditions dans lesquelles le pape est infaillible. Donc, il y a trois conditions, c'est-à-dire, un, qu'il déclare explicitement dans le document qui est le sien, qu'il agit en tant que prima, c'est-à-dire ayant la juridiction universelle en tant que pape. Il invoque généralement, selon la formule, l'autorité de Saint-Pierre et de Saint-Paul, etc., par le mandat qui nous a été expressément content, qu'il dit en quelle qualité il agit. Ensuite, il doit s'agir d'un domaine qui touche la foi et les mœurs. Et ensuite, troisième condition, sine qua non, sinon il n'y a pas infaillibilité, il faut qu'il ait l'intention d'obliger, parce qu'il va dire, tous les fidèles de l'Église catholique. Et il faut qu'il le dise explicitement. S'il ne le dit pas, la condition n'est pas remplie. L'Église a mis, si on peut dire, c'est pas l'Église qui a passé en 1870, ça. L'Église a récapitulé, si on peut dire, quelle était la foi de l'Église depuis des siècles et qui se trouvait déjà dans beaucoup d'écrits de pères de l'Église ou de décisions antérieures du Concile, mais qui n'avaient jamais tranché souverainement. C'est de là qu'elle a tiré dans quelles conditions le pape est infaillible. Et vous avez quelquefois le pape qui tenait à faire remarquer, je sais que ça a été le cas en tous les cas de Pie XI, qu'il parlait dans ce domaine-là en tant que docteur privé, pas en tant que pape. Donc il marquait déjà une volonté, c'est de ne pas parler en vertu de son pouvoir, mais en tant que personne. Donc il faut trois conditions. Si une de ces conditions n'est pas remplie, l'infaillibilité n'est pas réalisée. Donc il faut qu'il agisse en tant que docteur universel, il faut qu'il s'agisse de la foi et des mœurs, et il faut qu'il déclare son intention d'obliger tous les fidèles dorénavant, sous peine de cesser de rester, d'être catholique, d'accepter ce qu'il définit. Vous avez un très bon exemple de ça, récent, c'est 1950, Pie XII, quand il proclame le dogme de l'Assomption. Alors vous voyez cette démarche, vous regardez dans cette démarche et vous voyez, ça prend 5 ou 6 lignes pour dire en quelle qualité il agit. Ensuite, évidemment, on est dans le domaine de la foi et des mœurs, et il définit ce qu'il y a lieu de croire, ce qu'il faut tenir comme devant être cru. Et ensuite, il fait obligation à toute l'Église de croire. Et alors, dans ce document-là, à ces conditions-là, si ces trois conditions-là sont remplies, il y a infaillibilité, quelle que soit la forme que le pape a employée. Il peut employer, et le pape n'est pas lié par une forme. Il n'est pas obligé de prendre une constitution apostolique, etc. Il peut le faire dans une encyclique, dans un motu proprio, dans un écrit quelconque. Si ces trois conditions sont remplies, il y a infaillibilité personnelle du pape. On toucherait à un autre domaine si on parle de l'infaillibilité. Ça, c'est le magistère qu'on appelle extraordinaire, c'est-à-dire qui se manifeste dans des circonstances spéciales. On toucherait un autre point d'infaillibilité, c'est dans ce qu'on appelle le magistère ordinaire. L'infaillibilité du magistère extraordinaire est définie par le Concile Vatican I dans ces conditions. Et puis vous avez le magistère ordinaire, qui lui ne fait pas l'objet d'une définition de l'Église. L'Église n'a pas dit dans quelle situation et comment le magistère ordinaire est infaillible. Mais les théologiens et les papes admettent qu'il y a une infaillibilité du magistère ordinaire lorsque, sur une longue série, si l'on peut dire, d'années, un siècle ou je ne sais pourquoi, il y a eu un enseignement constant par les papes sans que ce soit des formules solennelles ou n'importe, mais qu'il y a eu un enseignement constant sur tel et tel point, il y a l'infaillibilité ordinaire, et l'infaillibilité, je veux dire, du magistère ordinaire et universel. Le palais ex cathedra, c'est l'ensemble. Ex cathedra, cathedra, ça veut dire le siège, n'est-ce pas? Ou le trône. Alors, il s'assied sur le trône et puis il dit, maintenant, en tant que souverain pontife, je vous vois. Alors, la déclaration ex cathedra, c'est celle qui est revêtue d'infaillibilité, à condition que les trois conditions soient réalisées. Et c'est une des choses, ça vous fait comprendre une des précisions de Paul VI. Quand il dit à propos du concile, je n'ai pas les références exactes, l'Église n'a rien voulu enseigner dans ce concile avec l'intention d'obliger tous les fidèles. Il fait allusion précisément à cette troisième condition nécessaire pour qu'il y ait infaillibilité. Donc vous pouvez avoir un magistère extraordinaire, il ne faut pas confondre le magistère extraordinaire avec le magistère infaillible. Le magistère extraordinaire, c'est un concile, et celui-ci était le plus extraordinaire de tous, par le nombre, si on peut dire, des évêques qui étaient là rassemblés. Des conciles comme le concile de Nicée en comptaient une fraction, peut-être un dixième de ceux qui étaient là, 300 peut-être évêques. D'autres ont pu être concile de 30, je ne sais pas combien ils étaient, mais ils n'étaient pas très très nombreux. Donc c'est un magistère extraordinaire, mais le magistère extraordinaire n'est pas par lui-même infaillible. Il faut qu'il remplisse les conditions qu'a mises l'Église dans la constitution Dei Filius pour qu'il y ait infaillibilité. Et il peut y avoir au contraire une infaillibilité du magistère ordinaire, sans éclat. Le pape, tout d'un coup, dans une encyclique, il dit, vous avez des encycliques, la Bullunam Sanctam, l'encyclique Quanta Cura, beaucoup de théologiens admettent que ce sont des documents où l'infaillibilité du pape est engagée, à raison précisément des trois conditions qui sont remplies. Il déclare qu'il agit comme pasteur universel, il définit un domaine touchant la foi ou les mœurs, et il a l'intention d'obliger tous les catholiques.
Mais ça suffit. Le pape Jean-Paul II, il n'a jamais agi avec ces trois...
Les documents, disons, dans la manière, le magistère extraordinaire d'un pape, c'est assez rare que ça se déroule, disons, qu'il se déroule. Vous aviez Pie XII en 1950, et ensuite il faut remonter à Pie IX en 1854, quand il a défini, proclamé le dogme de l'Immaculée Conception. Il y a peu de... Et d'ailleurs, vous n'avez qu'à songer à une chose, il n'y a pas eu de magistère extraordinaire dans l'Église avant 315, qui était le concile de Nicée. Pendant 300 ans, en gros, l'Église a, si on peut dire, navigué sans document d'infaillibilité, quoi, de magistère extraordinaire. Mais c'est pour ça qu'il y a une infaillibilité du magistère ordinaire. Mais il faut de nouveau que ça touche des points de la foi et des mœurs, et que le pape n'agisse pas en docteur privé, comme ça leur est arrivé de faire.
Mais néanmoins, je trouve qu'il sème un peu le doute parmi les fidèles.
Mais c'est évident qu'en temps, il leur reste quand même la qualité, n'est-ce pas, de chef, n'est-ce pas, qu'ils soient pape, cardinaux ou évêques, ce sont des chefs, et il est normal, dans une situation normale, il est normal que les fidèles suivent. Il serait normal qu'on n'ait pas à se poser la question dans l'Église, est-ce que ce qu'ils disent est juste? On devrait être tranquille, avoir des chefs d'une telle qualité qu'on dise, bon, ils ont parlé, mais c'est évident, nous, on souscrit d'emblée. Mais seulement, le premier qui a quand même attiré l'attention sur le fait que ça pouvait être, c'était saint Paul, quand il a dit, si moi-même, ou un ange venu du ciel, c'est encore autre chose que le pape, parce qu'un ange venu du ciel, en principe, ce n'est pas un damné, donc c'est un bienheureux. Si un ange venu du ciel venait à vous enseigner autre chose que ce que je vous ai appris, renvoyez-le. Donc il y a... C'est lui qui, le premier, a repris au concile de Jérusalem, a repris ouvertement Saint-Pierre, qui était pape. Et il marque purement et simplement, mais il ne marchait pas droit selon le Seigneur. Saint Paul qui le dit, sans parler, bon, oui, ils étaient quand même, à partir de la Sainte Cène, ils étaient quand même prêtres. Et quelqu'un a eu la fâcheuse idée de remarquer que le premier acte que les apôtres ont posé en tant que collège, ça a été de se tailler. Il n'y avait plus personne. Là. Bon. On ne doit quand même pas s'autoriser de ces précédents pour dire que c'est toujours comme ça. Mais oui, c'est en soi, disons. On préférerait avoir des gens, je dirais, moins pieux, à la rigueur, et d'une rectitude doctrinale totale. Je préférerais qu'il y en ait un qui fasse un enfant quelque part, et puis qui, sur ces plans-là. Bon, ça est arrivé dans l'Église, quoi, il ne faut pas. On parle tellement d'Alexandre VI Borgia. Bon, celui-là, il avait assuré une descendance, celui-là, même plusieurs fois. Mais c'est impeccable au point de vue doctrine. Vous voulez que je vous dise, moi. Comment ? Un motu proprio, littéralement, ça veut dire de mon propre mouvement. Alors, c'est un nom qu'on donne au pape qui fait un motu proprio. Ça se présente comme un papier, comme une encyclique, une bulle, un décret ou n'importe, mais ça s'appelle motu proprio. J'ai l'impression quand même qu'il doit y avoir des questions administratives qui sont réglées là-dessus, parce que vous avez la chancellerie. Alors à la chancellerie, il faut tel sceau, si c'est un motu proprio, ben si c'est une bulle, c'est plus solennel. Mais je ne connais pas trop le détail, disons, formel, si on peut dire. Mais motu proprio, ça veut dire de mon propre chef, de mon propre mouvement, sans avoir été sollicité. Alors vous avez un motu proprio sur la musique, un motu proprio sur... Comment ? Ah ben si, il peut toujours le faire. Qu'il veuille pas le faire, ça c'est autre chose. Mais il peut toujours le faire. Et alors, de même qu'on a les titres, par exemple, dans le en fait constitution dogmatique, je sais pas moi, sur telle et telle chose, il faut encore regarder le contenu pour voir si c'est vraiment une constitution dogmatique. C'est pas uniquement le titre qui fait. Il dénote ce qui se trouve et quel degré d'obéissance on doit à tel et tel document. C'est pour ça qu'ils avaient mis en œuvre, je crois Paul VI avait mis en œuvre 4 ou 5 commissions d'interprétation du Concile. On n'a jamais vu venir une interprétation d'ailleurs de ces 4 ou 5 commissions. Mais quand il a été posé au cardinal Felici, qui était le secrétaire général du Concile, quelle note théologique, c'est ainsi qu'on parle, quelle note théologique faut-il attacher à telle affirmation ? Vous avez des distinctions, vous avez un dogme de foi révélé, un dogme de foi divine, ou bien simplement une doctrine catholique. Une doctrine catholique, c'est une doctrine qui n'est pas expressément affirmée dans l'Écriture, mais que vous tirez par raisonnement de fondements qui sont dans l'Écriture. Vous avez ensuite une note, par exemple, en disant « ceci est certain, ceci est... » Il y a toute une gradation en théologie. Pour dire quel degré comment est-ce qu'on pourrait dire, d'obéissance on doit à telle ou telle disposition. Et par exemple, si quelque chose est seulement certain, vous ne pouvez pas être hérétique en niant cette chose. Vous n'êtes hérétique que si vous niez une vérité de foi révélée. Vous voyez ? Et alors on a demandé au cardinal Felici de dire dans les textes de Vatican II de donner la note théologique qui s'attachait à chacun des documents. Alors, la réponse a été très simple, à dire, ma foi, il n'y a qu'à suivre les règles ordinaires dans l'Église, dans ce domaine. Alors, chacun est renvoyé à ça. Mais on a plusieurs textes de Jean XXIII déjà, mais de Paul VI aussi. Vous avez tout dernièrement le cardinal Racine, qui l'a d'ailleurs, dans la conférence aux évêques du Chili, a dit que le Concile a été pastoral. Il n'a pas voulu enseigner, il n'a pas voulu définir quelque chose avec la volonté que ce soit tenu par tous les catholiques sous peine de cesser d'appartenir à l'Église, ce qui est le propre, disons, lorsque le magistère extraordinaire se met en œuvre et puis qu'il tranche un point. Et le pape Paul VI, lui, a été très expressif en disant qu'il n'a rien voulu définir avec l'intention d'obliger tous les fidèles. Il faudrait rechercher ce texte, on le retrouverait certainement. Il est revenu à une ou deux reprises sur la question. Mais ce qui ne veut pas dire que dans les textes du Concile Vatican II, il n'y ait pas des vérités de foi révélées. C'est évident que c'en est plein, je dirais. Simplement, quand un texte dit Jésus-Christ, notre Sauveur, c'est une vérité de foi, il y en a plein, mais elle ne tire pas l'autorité de texte. De ce texte-là, elle tire leur autorité des définitions qui ont été données en son temps par l'Église.
Justement, vous dites des fois où vous êtes intransigeant, vous dites que il n'y a que les catholiques qui seront sauvés, mais...
Non, ça, on ne peut pas dire que seulement les catholiques sont sauvés, parce que précisément, on peut être sauvé si on a le baptême. Il y a trois baptêmes. Vous avez le baptême d'eau, vous avez le baptême de sang, c'est le martyr, et vous avez le baptême de désir, qui est explicite ou implicite. Alors ça, c'est le mystère de Dieu, et c'est le jugement de Dieu, et puis heureusement que c'est le sien, de savoir qui est sauvé, parce que qui a répondu au coin, dans le fond de la jungle, ou bien ça peut être dans un HLM, à acquiescer, disons, à la volonté de Dieu, et qui se trouve en état de grâce. L'état de grâce, c'est pas visible, qu'est-ce que vous voulez faire, c'est pas comme maintenant, quand on est nombreux, on met un machin avec le nom dessus, là, mais vous savez, on n'arrivera jamais à avoir un carton en disant celui-ci en état de grâce, celui-là pas en état de grâce. Pas possible. Mais c'est évident que Dieu s'occupe tout un chacun, parce que Dieu étant l'être, tout ce qui vit, tout ce qui a une vie quelconque, du brin d'herbe à l'homme le plus génial, il doit son existence à Dieu, et il n'est tenu dans l'existence que par Dieu. Si Dieu, en quelque sorte, tout d'un coup, retirait, c'est ce qu'on appelle la présence immanente de Dieu, il ne faut pas arriver au panthéisme, mais Dieu est présent à toute sa création, précisément parce que c'est lui qui est la base de tout être. Et d'une certaine manière, on peut presque dire qu'il tient le démon en vie aussi. S'il cessait d'être présent à Satan, il partirait en fumée, quoi. Qu'est-ce que vous voulez ? Enfin, même pas, je ne sais pas quoi. Mais enfin, tout être, tout ce qui a de l'être à un degré quelconque, doit cet être à Dieu et doit être conservé dans cet être par Dieu. Ça c'est sûr. Mais ça ne veut pas dire. Il y a quand même un élément, c'est que Dieu nous a laissés libres. Et c'est. Quand vous prenez une pierre, ou bien n'importe quel objet, et que vous lâchez, il y a une loi qui s'applique. C'est la loi qui s'applique aux êtres qui ne sont pas doués de raison. Ils n'ont pas la raison. Mais tout être doit aller à une fin, à un but pour lequel il existe, pour lequel il a été créé. Mais s'agissant des êtres qui sont inanimés ou qui sont dépourvus de raison, on ne leur demande pas leur avis pour aller à cette fin. Il y a des lois physiques qu'on appelle, qui sont telles qu'ils y sont soumis. Une pierre qui tombe obéit à la loi de pesanteur. Elle ne peut pas dire tout d'un coup, je fais un mètre puis je m'arrête. Elle tombe. Et avec le poids... sous ce domaine-là, bien sûr, c'est clair, on ne peut pas... oui. Tandis que, et c'est justement par opposition à ces lois physiques, il y a ce qu'on appelle les lois morales. Or, les lois morales sont faites spécifiquement pour l'homme. Elles tiennent compte du fait qu'il y a des lois pour arriver à tel et tel endroit, c'est sûr, mais l'homme a ce privilège extraordinaire d'être libre, c'est-à-dire la liberté lui a été donnée pour qu'il puisse aller lui-même à la fin pour laquelle il est créé. Et ce qu'il y a de dommage, c'est que malheureusement, si la liberté lui a été donnée pour aller lui-même, ça c'est le but premier, il y a cette conséquence aussi qui peut dire, moi j'en ai marre, j'ai la cosse et je veux aller ailleurs. Mais il se détourne de la loi qu'il mène vers sa perfection. Et alors, Dieu ne peut pas... Il est prisonnier, en quelque sorte, de ce qu'il a voulu. C'est clair qu'il ne peut pas, en même temps, nous vouloir libres, et puis faire en sorte que, sans contraindre, on se connaît, qu'il nous empêchait de faire du mal.
Mais ce désir d'être sauvé, tout le monde l'a, mais je pense qu'il faut aussi l'effort.
Bien sûr.
Mais lorsque vous avez dit... le désir suffirait presque d'être sauvé, le désir de salut. Oui. Il faut l'effort.
Bien sûr. Alors, il faut conformer sa vie.
La raison, qu'est-ce qu'il faut faire?
C'est pour ça.
Ils n'ont pas la raison de faire un effort.
Oui, mais ça, c'est justement ce qu'il y a de magnifique avec Dieu, c'est qu'il sait tout. Il sonde les reins et les cœurs et il se connaît mieux que je me connais moi-même. Donc, lui, il tiendra compte de tout. Moi, on s'aperçoit quand on doit juger quelqu'un. Bon, vous avez une crasse qui a été faite. Bon, mais comment est-ce qu'il a fait ça? Comment est-ce qu'il était à ce point? Pensable qu'il soit. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il ait fait ça? Puis on n'arrive pas à ouvrir le capot. On ne sait pas ce qui s'est passé. Comment est-ce qu'il s'est. Puis on en est réduit, disons, à. Peut-être qu'on punit indûment une fois, puis peut-être qu'une autre fois on ne punit pas alors qu'il faudrait punir. Alors lui, de ce côté-là, il n'a pas de problème. Chacun sera payé, si on peut dire, à sa juste mesure. Mais c'est évident que ce n'est pas le simple fait d'une appartenance physique à l'Église qui fait qu'on soit sauvé. C'est pas parce qu'on est dans l'arche qu'on arrivera au port. C'est clair, il faut. Et il y a au contraire quelque chose qui dit, c'est que dans l'Évangile, il sera demandé à chacun à proportion de ce qu'il a reçu. Aux uns qui n'a reçu qu'un talent, on demandera un talent, celui qui en a reçu cinq, on en reçoit cinq. Moi j'ai un belle-sœur qui me dit, m'en parle pas, moi je sais, moi je suis responsable. Je veux pas le savoir. Alors on aimerait quelquefois, disons, être dans un état un peu végétatif, disons, ne savoir que pas grand-chose pour. L'ignorance invincible, c'est quelque chose de plus compliqué qu'on a. Par exemple, on vous dira tout de suite que l'ignorance invincible, bon, ben, celui qui en connaît un peu, qui a étudié ou n'importe, celui-là a moins d'ignorance invincible que l'autre. Cardinal Newman vous dit le contraire. Il vous dit que c'est plus difficile quand on sait trop de choses que quand on en sait peu. Hein? Parce que on arrive. Des intellectuels ont beaucoup plus de peine à se convertir au catholicisme que des gens qui. On dit simple, mais il n'y a aucune note péjorative là-dedans, mais ils ne se posent pas 36 questions, ils vont tout d'un coup, c'est évident, quoi. Ils ont le privilège de voir que quand il pleut, il pleut. Les intellectuels, ce n'est pas toujours comme ça, qu'est-ce que vous voulez faire? Ils sont en train de se dire, mais est-ce qu'il n'y a pas, est-ce que j'ai pas quelque chose, un écran ici, est-ce qu'il n'y a pas une vitre, il faut aller voir plus près, puis est-ce que c'est vraiment des gouttes de pluie? Et puis il dit, bon, oui. Alors c'est souvent plus difficile pour un intellectuel, disons, alors qu'on aurait tendance à penser le contraire. Mais l'ignorance invincible, c'est un état dans lequel on se trouve et qu'on n'arrive pas à vaincre sans qu'il y ait sa faute. Et ça, c'est Dieu qui juge. Alors qui est dans l'ignorance invincible? Qui mais oui. Non, je. Ah oui, oui, oui. Oui, bien sûr. Ah oui, c'est sûr. Oui, dans le quart d'heure, oui, je pense. Il y a beaucoup plus, disons, il ne faut pas la situer, l'ignorance invincible, au cœur de l'Amérique du Sud, à supposer qu'il y a encore une tribu qui n'a pas été contactée par les Blancs, hein, je ne sais rien. C'est certainement plus étendu que ça. Il y rentre, pas, c'est comme quand on parle d'ailleurs du protestantisme et tout ça, il faut faire une distinction. C'était une chose les démarches de Luther et de Calvin, et c'est autre chose de ceux qui sont nés dans le protestantisme, et qui ont sucé ça, on peut dire, avec le lait maternel, pas, pour se rendre compte que l'Église catholique est la seule véritable Église. C'est pas si simple. Ça demande des grâces et des lumières et une démarche, disons, de sorte qu'on ne peut pas purement et simplement peut-être. Il a peut-être existé, ou on a peut-être eu des attitudes de catholiques arrogants, je dirais, qui sont bien nantis, ont conscience d'être bien nantis, bien chez eux ou n'importe. Hein? Alors de ce côté-là, qui est la charité, disons, à manifester, ce serait précisément ce sur quoi on devait mettre l'accent, mais sans sacrifier à ce qui est la vérité. Alors, il y a quelquefois, on est ainsi fait, malheureusement, que quelquefois, pour s'arranger, on dit, bon, ben, pratique un peu le baiser, ce qu'on appelle le baiser l'amourette. Ça, c'était un évêque constitutionnel, celui-là. Alors, il était en train de s'écharper, puis il a fait un discours tellement sentimental et sentimental qu'ils sont tous tombés dans les bras les uns des autres. Ça a duré 3 heures, puis ils ont recommencé de s'écharper. Alors ça, mais il s'écharpait alors jusqu'au bout. Hein, c'était le type, il bougeait plus à la fin de. Alors ça, ils ont appelé ça le baiser l'amourette. Alors on aurait tendance, disons, on aime en fait ne pas être en bagarre avec les autres. On aime se sentir uni avec les autres. Et alors dans cette démarche, on a tendance à lâcher ce qui en fait n'est pas à nous, qu'on n'a pas le droit de lâcher. Moi je peux bien sacrifier comme Saint-Martin la moitié du manteau, mais la vérité ça ne m'appartient pas. Je peux pas dire je vous fais un rabais aujourd'hui. Je peux faire un rabais sur ce qui m'appartient, je peux pas faire un rabais sur ce qui ne m'appartient pas. Mais dans la façon de le présenter, alors là il y a certainement, disons, je dirais de la délicatesse, des gants, etc. Et puis il y a la situation dans laquelle se trouve celui à qui vous vous adressez. Est-ce qu'il est en recherche ou bien est-ce qu'il vous écoute d'un air distrait ou n'importe. Quelquefois, si vous vous mettez à faire 3 heures, vous risquez de le raser définitivement. Il n'y a plus rien, un poil qui lui repousse. Quelquefois, ça arrive aussi, disons, que vous lâchiez simplement un mot, puis que c'est ce mot qui porte. Puis vous n'êtes pas aperçu. Il faut toujours se méfier des fois où on pense avoir été éloquent. C'est généralement les fois où il ne reste rien.